France Culture.
La science CQFD, Natacha Triou.
En Sibérie, nous venons de faire la découverte de Yana, un petit mammouth vieux de 50 000 ans parfaitement conservé. Avec la fonte du pergélisol, va-t-on découvrir encore plus de mammouthos prisonniers des glaces ? Depuis la fin du XXe siècle, on découvre de plus en plus de momies de mammouths. Et en 2008, le premier génome complet a été séquencé. La génétique nous aide à comprendre les modalités de son extinction, ses liens de parenté avec les éléphants actuels, ou comment il résistait au sol très froid sans porter de sabots. Pour certains, ce patrimoine génétique serait aussi la clé de sa résurrection. Une des extinctions est actuellement annoncée pour 2028. Est-ce un projet réaliste ? Ces géants préhistoriques vont-ils de nouveau côtoyer les humains ? Mammouth, plus frais que nature. Régis De Bruyne, bonjour.
Bonjour Natacha.
Vous êtes paléogénéticien au Muséum National d'Histoire Naturelle. Laetitia Demey, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéozoologue dans l'unité Histoire Naturelle de l'Homme Préhistorique du MNHN. Merci à vous deux d'avoir accepté notre invitation en direct dans nos studios à France Culture. Et merci à vous qui nous écoutez en direct ou à toute heure, en podcast, via l'appli Radio France. Alors pour retrouver toutes nos sources et nos ressources, migrez avec nous sur Blue Sky, sur notre compte @sciencecqfd. Tous les jours, nous publions de nombreux liens pour compléter l'écoute. Alors, qu'apprend-on sur l'époque, l'alimentation, l'environnement à partir de ces momies ? Quelles informations les données génétiques nous apportent-elles sur la vie des mammouths ? Nous sommes ensemble jusqu'à 17h pour répondre à ces questions. Mais on commence avec notre archive du jour. En 1977, on découvre déjà des mammouths.
Revenons un peu sur cette extraordinaire découverte en Union soviétique. Des chercheurs d'or qui prospectaient dans le nord-est du pays ont découvert, parfaitement conservé dans la glace, un mammouth. Un vrai bébé mammouth figé dans les glaces ainsi depuis 10 000 ans. Gabriel Meretic à Moscou.
Il a 1,15 m de long, 1,04 m de haut et sa trompe fait 57 cm de long. Son poil est long, châtain, et on pense qu'il avait 6 mois. 6 mois quand il est tombé dans un lac de Sibérie, il y a à peu près 9 ou 10 000 ans. Il, entre guillemets, c'est la vedette actuelle du tout Moscou, et pas seulement Moscou, scientifique. Un petit mammouth découvert intact et entier par un chercheur d'or de Sibérie. Son corps a été montré à Magadan par les savants de l'Institut des problèmes du Nord-Est, qui n'en revenait pas visiblement d'avoir une telle aubaine. C'est la première fois en effet que l'on retrouve non pas un squelette, non pas des vestiges, mais un corps entier de mammouth. La disparition de ces géants de l'ère préglaciaire reste aujourd'hui encore une énigme. L'analyse du corps du bébé mammouth de Magadan permettra peut-être de l'élucider.
Voilà, un bébé mammouth dans le journal de France Inter le 23 juillet 1977. On entendait toute l'excitation dans la voix de mes confrères, Régis De Bruyne. Comment comprendre l'engouement que suscitent ces animaux ?
Oh, je pense que l'engouement, il est lié au fait que le mammouth, c'est à la fois un animal un peu fantasmatique, mythique, qui a un peu l'attrait du dinosaure, et en même temps, c'est un animal qui est beaucoup plus proche de nous, dont on sait qu'on l'a fréquenté parce qu'il est dépeint dans les grottes ornées. Donc, il y a cette espèce d'ambivalence qui fait qu'il a une place à part, en fait, dans notre représentation du vivant.
Oui, c'est un animal très attractif, et depuis longtemps, Laetitia Demey. Il y a une histoire d'amour presque entre la paléontologie et le mammouth. C'est une histoire d'amour qui dure d'ailleurs depuis des siècles.
Oui, alors les toutes premières découvertes, sûrement qui datent de l'Antiquité en fait. Donc toutes ces légendes qu'on a autour des géants, des cyclopes notamment, donc ces crânes de mammouth qui étaient trouvés avec ces orifices pour la trompe. Donc on suppose que ça fait longtemps qu'il y a des gens qui s'intéressent à ces ossements. On a des anecdotes aussi qui sont assez rigolotes, notamment dans le sud-est de la France. On a un médecin, M. Mathurier, qui avait trouvé des os géants, qui sont de mammouth laineux, et qu'il a présentés comme étant ceux du géant Teutobochos à l'époque, donc ce qui était un roi légendaire des Cimbres. Donc les gens sont venus, mais vraiment de manière scientifique, c'est Georges Cuvier, donc au XVIIIe siècle, qui va se mettre vraiment à étudier ces ossements, avant qu'on commence justement à découvrir de plus en plus de carcasses congelées.
C'est ça, c'est Cuvier, Régis Dubrine. Cuvier s'interroge justement, il y a cette réflexion sur la distinction entre les éléphants d'aujourd'hui et les mammouths, qui marque le début de la paléontologie.
Ben oui, tout à fait. Pourquoi ? Parce qu'à l'époque, on est encore dans un monde où l'évolution n'existe pas. Alors, pour Cuvier non plus, d'ailleurs. Hein. Pour Cuvier, on dit qu'il est fixiste, c'est-à-dire qu'il a une représentation du monde où la faune a été créée de façon divine et reste inchangée. Alors, la différence avec Cuvier, c'est qu'il accepte d'introduire qu'il y a pu avoir plusieurs créations du vivant. Pourquoi ? Parce qu'il se rend bien compte, au cours de ses analyses anatomiques, qu'il fait face parfois, et c'est le cas avec les mammouths, avec des situations inédites d'os d'éléphant, entre guillemets, puisque les mammouths sont des éléphants au sens large, mais dans des endroits où on ne les attend pas, par exemple en Europe, en Russie, et puis on n'en observe plus aujourd'hui. Donc là, c'est un petit peu l'identification qu'il y a eu des éléphants dans ces environnements par le passé, et que ces éléphants étaient différents en plus, en s'attachant à leur morphologie intrinsèque, en particulier à la morphologie de leurs dents, puisque c'est ça qui nous donne le plus d'informations, de se rendre compte que c'était des éléphants différents des éléphants modernes.
Alors justement, ce sont des éléphants, mais à propos de diversité, que sait-on de la diversité des mammouths, hein, le genre aurait compté jusqu'à environ 160 espèces différentes, on a même des mammouths nains. Quand on parle de mammouths, on fait référence au genre Mammuthus, hein, qui contient toutes ces différentes espèces, Laetitia Demey.
Oui, alors aujourd'hui en plus tout le monde n'est pas forcément d'accord sur les différentes dénominations d'espèces. Les plus anciens spécimens qu'on puisse connaître, c'était dans le sud de l'Afrique, donc il y a à peu près 5 millions d'années, donc le Mammuthus subplanifrons. Ceux qui vont après apparaître, bon, ça comme je disais tout le monde n'est pas forcément d'accord, tu peux peut-être complémenter là-dessus. Mais en tout cas ceux qui sont bien renseignés, c'est ceux qui arrivent sur le continent eurasiatique. Donc le grand mammouth méridional qui va se diviser notamment entre le mammouth de Colomb et le mammouth des steppes. Donc là on est avec des animaux sans poils et ce mammouth des steppes qui ensuite donnera le mammouth laineux.
Régis Dubrine.
Oui, ben, en fait, ce qui est intéressant, c'est vraiment de réintroduire l'origine des mammouths dans cette histoire familiale des éléphants. Alors, il n'y a pas eu 160 formes de mammouths ou d'éléphants. En fait, il y a eu 160 espèces fossiles de ce grand groupe qu'on appelle les proboscidiens, auxquels appartiennent les mammouths, mais qui s'enracinent, lui, beaucoup plus en amont encore dans l'histoire du vivant. Les éléphants, les mammouths, effectivement, ils tirent leur histoire de façon relativement récente en Afrique, il y a 5-7 millions d'années, à une période un peu charnière, parce que c'est une période où le continent africain est marqué par un changement, là encore, global dans ses environnements, avec une régression de la forêt. Il faut vraiment envisager que jusque-là, l'Afrique, c'est 90% de couverts forestiers. Et ce changement d'environnement va amener une aridification qui va amener à l'ouverture des grandes savanes. Et ces savanes, bah, elles ne sont pas forcément très très accueillantes au départ pour nos éléphants ou nos mammouths, parce que ce sont des animaux qui sont tous originaires de la forêt. Et donc les mammouths vont être parmi les premiers éléphants, en quelque sorte, à s'émanciper de la forêt et à conquérir ces savanes. Et une fois sortis dans ces savanes, ces milieux ouverts de plantes herbacées, on va dire, ils vont conquérir plus facilement par le levant, effectivement, le continent eurasien. Donc eux, ils vont être quasiment les pionniers de ce point de vue-là, à s'émanciper de cette forêt, alors qu'aujourd'hui, finalement, en Afrique, il reste des éléphants qui vivent encore, d'ailleurs, dans cette forêt dont on peut penser qu'ils sont quasiment le morphotype ancestral de toute cette famille. Et les éléphants de savane d'Afrique actuelle, eux, d'une certaine façon, ils sont venus remplacer les premiers mammouths qui sont partis en Eurasie. Ben, les éléphants d'Afrique des savanes sont venus les remplacer, écologiquement parlant, prendre leur place, puisque les savanes étaient quand même disponibles.
C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'en fait, les lignées humaines et de mammouths ont émergé au même endroit, à la même époque, et pour les mêmes raison avec cette sortir de la forêt en raison de l'aridification.
Oui, tout à fait. Et en plus, si vous voulez une image assez rigolote, c'est même l'origine des mammouths qui emmène Yves Coppens en Afrique au départ. C'est-à-dire, quand il part dans cette région du Rift africain, il ne part pas chercher des premiers humains. Il part avant tout documenter l'histoire de ces premiers mammouths fossiles dont on connaît l'existence seulement depuis le milieu du XXe siècle. Donc voilà, il y a effectivement des mêmes effets, des mêmes paramètres écologiques globaux qui amènent à des changements d'habitude qui sont comparables dans la lignée humaine, dans la lignée des grands singes, pardon, et dans la lignée des éléphantidés d'autre part.
Quand on pense mammouth, on pense au mammouth laineux. C'est plus récent des mammouths, et si on doit faire un portrait du mammouth laineux, à quoi ressemblait-il, Laetitia Demey ?
Alors le mammouth laineux, contrairement à l'image qu'on en a souvent dans les films, finalement, c'est le plus petit des mammouths et il est plus petit que les éléphants d'Afrique actuelle. Donc plus râblé aussi, donc des petites oreilles, une petite queue, donc ça pour se protéger du froid. Et ce qu'on peut savoir déjà à l'époque, grâce aux représentations pariétales dans les grottes et grâce aussi aux carcasses congelées, c'est qu'on va surtout avoir cette laine justement, donc ces trois couches de poils qui sont typiques en fait des espèces hein, qui s'adaptent au climat, aux environnements glaciaires.
Voilà, des oreilles plus petites, une queue plus courte, une grosse fourrure, ça en fait des animaux en effet très adaptés pour le grand froid. Régis Debrun, on parle d'un éléphant en effet, enfin d'un mammouth plus petit, hein, 3 mètres de haut, 5-6 tonnes pour le mammouth laineux. On a en comparaison le mammouth méridional qui lui est nettement plus grand.
Oui, exactement, comme le disait Laetitia tout à l'heure, en fait les premiers mammouths à arriver en Eurasie, on va dire d'une certaine façon, ce sont des mammouths un peu généralistes dans leur écologie, c'est-à-dire ce sont des animaux qui sont plutôt habitués à vivre là encore dans le couvert forestier, ou en tout cas à se nourrir sous le couvert forestier. Et donc ce sont des animaux qui vont s'épanouir. Pourquoi ? Parce qu'au moment où ils arrivent, à l'époque où ils arrivent en Eurasie, eh bien, là encore, une large frange de l'Eurasie est couverte de ces forêts tempérées. Et donc ils vont s'épanouir dans ces environnements-là, contrairement aux autres éléphants qui vont rester dans des environnements tropicaux. Et c'est vraiment cette émancipation du milieu tropical qui va vraiment signer leur destin d'une certaine façon. Pourquoi ? Parce que quand vous migrez dans un environnement plus tempéré et que le climat est plus changeant, vous allez devoir vous adapter à des variations beaucoup plus importantes que les animaux qui sont restés en milieu tropical. Les éléphants d'Asie ou les éléphants d'Afrique, eux, ils sont toujours restés, entre guillemets, dans des environnements peu changeants. Donc nos mammouths, en arrivant en Eurasie, ils vont d'abord s'épanouir dans ces forêts tempérées, atteindre des volumes extrêmement massifs, donc dépasser la taille de nos éléphants actuels. Ils peuvent atteindre 4,50 m, une dizaine ou une douzaine de tonnes pour les plus gros spécimens sans doute. Donc quelque chose d'extrêmement impressionnant, puisque les plus grands éléphants d'aujourd'hui dépassent difficilement les 3,50 m. Donc on est sur un animal encore plus massif, hein, quand on augmente sa surface au carré, on augmente son volume au cube, donc on est sur quelque chose qui avait des besoins alimentaires absolument gigantesques. Et on va dire que ces animaux-là, du fait des changements environnementaux successifs, d'abord effectivement l'aridification, une fois de plus, du climat cette fois-ci tempéré, qui va mener à l'ouverture des steppes en Europe et à la réduction, à la contraction des forêts. Ce premier changement-là, il va mener, comme le disait Laetitia tout à l'heure, une première succession, entre guillemets, même si tous ces mammouths vont être contemporains à un moment. Il y a à peu près 1 million d'années, un peu moins que ça, vers 800 000 ans, on va dire, qu'on pouvait avoir des mammouths méridionaux, donc ces grands mammouths dont on trouve un joli représentant dans la galerie de paléontologie en France, puisque celui qu'on a, il vient du Gard, de Durfort. Donc on en avait encore autour de la Méditerranée, de ces mammouths forestiers, alors que l'essentiel du continent eurasien à ce moment-là est couvert de mammouths des steppes, et que tout au fond de la Sibérie commencent à émerger les premiers mammouths laineux. Donc vous voyez, une espèce de mosaïque comme ça, qui est liée au fait que, en fonction de ces environnements, chacune de ces lignées avait des préférences vraiment particulières.
Oui, Laetitia Demey, c'est une mosaïque géographique. Et le mammouth laineux, dont il est question le plus souvent, c'est le dernier rejeton de cette adaptation évolutive.
Alors, oui. Donc, il y en a deux à la fin qui coexistent. C'est toujours le mammouth laineux et le mammouth de Colomb sur le continent américain. Donc, ils vont coexister à un moment donné, tous les deux, sur le continent américain. Et ce mammouth laineux, justement, il va même tellement s'hyper adapter qu'il ne va pas pouvoir s'adapter encore à un nouveau changement climatique.
Il ne va pas pouvoir s'adapter encore à un changement climatique, ce qui lui sera fatal.
C'est ça. On peut envisager, en tout cas, que ça soit une espèce d'éléphant super adapté, tellement bien adapté à cet environnement de steppe froide, contrairement à ses prédécesseurs qui étaient plus généralistes, que la perturbation ultime qui va survenir au cours de la dernière période, on va dire, du paléolithique supérieur, avec cette humidification du climat il y a une douzaine de milliers d'années. Et ça va sans doute signer leur arrêt de mort. Oui.
Alors voilà pour la cartographie, la géographie des mammouths. Avec la gravure de Madeleine, on a la certitude de la contemporanéité de l'humain et du mammouth. Quelles ont été nos relations ? Restez avec nous.
France Culture, la science CQFD, Natacha Triou.
En direct sur France Culture avec Régis Debrune et Laetitia Demey. Nous parlons de mastodontes, nous parlons des mammouths et des momies de mammouthos conservées dans les glaces. On vient de voir que l'espèce la plus ancienne est donc le mammouth laineux, qui fait partie des derniers représentants des mammouths à avoir existé. Avec quelle population humaine les mammouths ont-ils coexisté, Laetitia Demey ?
Alors les mammouths laineux et surtout les interactions qu'on retrouve, c'est entre les néandertaliens et Homo sapiens, donc nous, les humains anatomiquement modernes, particulièrement en Europe orientale, parce qu'il y a eu beaucoup de traces en fait, d'échanges entre ces animaux et les sociétés humaines dans cette région.
Régis Debrun.
Oui, c'est étonnant ça d'ailleurs, parce que ça c'est vraiment les travaux de Laetitia et de son équipe, hein, de montrer qu'on s'est longtemps focalisé en fait sur les traces issues des représentations dans les grottes ornées en Europe occidentale, et puis des restes évidemment de mammouths qu'on trouvait là. Pourquoi ? Parce que c'était là finalement qu'il y avait la plus grosse activité de la recherche occidentale, et donc d'une certaine façon on a souvent laissé de côté ces autres terrains. Or nos mammouths laineux, certes, ils vivaient en Europe occidentale confrontés à la présence des humains et des modernes et des néandertaliens, mais ce n'était pas le seul endroit où effectivement ils se fréquentaient. Ils se fréquentaient beaucoup plus à l'est de ces glaciers, parce qu'il faut s'y figurer pendant une très longue période de la présence de ces humains modernes et de ces néandertaliens, le nord de l'Europe, quand je dis le nord, c'est un nord très large, hein, c'est un nord qui va englober jusqu'à Paris à peu près, et pouvait être couvert, cette partie ouest, de grands glaciers, gigantesques glaciers, et les mammouths, comme les humains, n'avaient rien à y faire. Donc ils étaient plutôt soit projetés vers le sud-ouest, soit au contraire à l'est de ces grands glaciers, dans les régions qui recouvrent aujourd'hui l'Ukraine, la Moldavie et des territoires comme cela. Et donc ces terrains-là, effectivement, le travail de Laetitia, par exemple, montre qu'il y a eu peut-être des interactions plus riches, entre guillemets, on a plus de marques, en tout cas, d'interactions fortes entre les humains et les mammouths à ces endroits-là. Des marques de chasse plus satisfaisantes, entre guillemets, par exemple.
C'est vrai. Mais, je voulais pas vous interrompre, Laetitia Demey, je vous en prie.
C'est vrai que oui, en Europe occidentale, ce qu'on retrouve, c'est beaucoup l'art pariétal. Et là, on a la majorité, il y a à peu près 500 représentations, je crois, de mammouths, dont la grotte de Roufignac, qui est un des exemples assez impressionnants et qui est visitable d'ailleurs. Mais c'est quand on va vers l'Europe.
Roufignac qui se trouve, si je dis pas de bêtises, en Dordogne, c'est ça ?
Oui.
Dordogne. Et là, on a en effet cette gravure qui a été, d'ailleurs, la découverte de cette gravure, aussi appelée la gravure de Madeleine, qui a été une découverte décisive sur le fait qu'on la coexistence des humains avec des espèces éteintes. C'est une gravure qui a aussi montré.
Bah oui, tout bêtement, là, on est dans la deuxième moitié du 19e siècle, à une période où l'homme peut commencer à envisager effectivement l'encore qu'il a connu lui-même, au-delà des évolutions de la faune et de la flore de son environnement, mais que lui-même est le représentant du fruit d'une évolution. Et donc là, on est à l'aube de la préhistoire. Et en fait, cet ivoire de la Madeleine, c'est donc un morceau d'ivoire de mammouth sur lequel est effectivement gravé un mammouth lui-même par la main d'un de ces hommes préhistoriques. Et ce mammouth, là encore, il ressemble à pas un éléphant moderne, il ressemble bien à un animal qui aujourd'hui n'existe plus. Donc s'il a pu être gravé ainsi, c'est que...
une attitude particulière.
Oui, en plus.
Donc c'est que c'est quelque chose qui est vu ou qui est transmis, en tout cas. C'est ça qui est intéressant sur cette plaquette, en plus.
Cette plaquette, elle date d'environ 13 000 ans, c'est ça ?
Oui.
Et à l'époque, le mammouth laineux avait quasiment disparu de ces contrées.
Alors oui, ça c'est toute une question, justement, parce que il semblerait que dans certains endroits, il représentait des mammouths alors que les mammouths ont déjà commencé à disparaître dans ces régions-là. Donc ça veut dire qu'il y aurait probablement eu une transmission au sein des sociétés humaines. Ouais.
Ça veut dire aussi que le mammouth a une importance pour ces populations humaines. Est-ce qu'on sait justement comment le mammouth a été utile pour les humains de ces époques-là ?
Alors effectivement, les mammouths et les éléphants, de manière générale, c'est un peu des espèces clés de voûte dans leur milieu. Par exemple, déjà juste au niveau de la construction du paysage. Aujourd'hui, on connaît, je crois, plus de 300 pistes fossiles d'éléphantidés, donc mammouths et éléphants, qui ont été préservés. Et on sait que c'est des animaux qui façonnent le paysage. Et souvent, toutes les autres espèces suivent les mammouths et les éléphants. Donc ça, probablement que ça existait déjà au paléolithique. Donc tout ce cortège faunique, dont les humains aussi, qui suivaient sûrement ces animaux. D'autre part, ces animaux qui se transmettent de génération en génération les points d'eau, ils migrent. Donc ils savent où sont les points d'eau. Chose importante, c'était les sels minéraux aussi, dont les humains avaient besoin, dont les autres espèces avaient besoin. Et ça déjà, de base, probablement que les groupes humains ont traversé des territoires en suivant ces troupeaux de mammouths. Donc il y a eu sûrement une influence comme ça, sûrement une influence psychologique, Donc déjà, c'est des animaux qui communiquent à distance par infrasons. Donc c'est des groupes qui peuvent se retrouver ensemble sans qu'on... Ça fait pas si longtemps que ça qu'on comprend comment ils communiquent. Donc peut-être psychologiquement, ça a provoqué quelque chose aussi au niveau peut-être symbolisme psychologique. Et ensuite, il va y avoir tout ce qui est ressources. Donc les ressources, qu'elles soient alimentaires, non alimentaires. Donc ça, ça peut être de la collecte, par exemple, d'ossements secs, ça peut être des carcasses d'animaux, ça peut être de la chasse. Alors pendant longtemps, d'ailleurs, la chasse, ça a fait débat, ça, est-ce qu'ils savaient chasser des mammouths? Actuellement, on a de plus en plus de preuves dites indirectes, avec les profils de mortalité, notamment, et de traces directes. On a le site de Lugovsk, en Russie, où il y a une trace d'impact dans une vertèbre. Plus récemment, il y a Krakow-Spadista, en Pologne, où on a une pointe en silex fichée dans une côte de mammouth. Et donc, ils vont s'en servir autant pour l'alimentation que pour construire des objets. Alors, particulièrement l'ivoire. Ça a été énormément utilisé dans toute l'Eurasie, d'ailleurs. Hein, ça, c'est pas propre à l'Europe occidentale, l'Europe orientale, pardon. Donc, pour faire autant des outils que représenter des statuettes féminines, par exemple. Et on va avoir aussi des objets qui représentent des mammouths. Donc on a le propulseur de Cancod, par exemple, avec ce mammouth qui est sculpté. Et chose importante aussi, et ça c'est plus typiquement en Europe centrale et orientale, c'est l'utilisation de ces ossements de mammouth pour faire des cabanes. Donc on a un site qui s'appelle Molodova en Ukraine, Molodova 1, où il y a des os qui ont été sélectionnés par les Néandertaliens. Peut-être une sorte de parvent. Et on va avoir des structures autour de 15 000 ans faites par Homo sapiens, où sur le site, on a jusqu'à 4 cabanes comme ça. Alors actuellement, on ne sait pas si elles sont exactement contemporaines les unes des autres. En tout cas, là, le mammouth est vraiment utilisé comme matériau de construction.
Autre preuve indirecte de notre cohabitation avec le mammouth, hein, les premiers Américains mangeaient des tonnes de mammouth. C'est ce qui ressort d'une étude qui est parue en 2024 dans la revue Science. Hein, l'analyse des isotopes STAB présents dans les os d'un jeune garçon a permis de reconstituer son régime alimentaire. Et on observe que c'est 40% de son régime alimentaire qui était constitué de viande de mammouth. Ça, c'est une étude qui m'a un peu amusée. Néanmoins, il semblerait que la fourrure n'ait pas été exploitée, Laetitia Demey.
Alors la fourrure,
c'est encore questionné cet aspect-là.
La fourrure, oui, ça pose question parce que déjà ça fait plusieurs centimètres d'épaisseur. La peau en elle-même, elle atteint presque 2 centimètres d'épaisseur. Donc faut imaginer, ça pèse à peu près une tonne, une peau complète. Donc faut pouvoir l'assouplir, faut pouvoir la transporter. Donc effectivement, il y a des peaux de rennes, par exemple, qui sont beaucoup plus faciles à travailler et transportables. Donc, oui.
C'est ça, on est toujours dans une logique de compromis pour ces peuples-là. Faut s'imaginer que oui, chasser le mammouth, c'est possible. Oui, utiliser une peau de mammouth, c'est possible. Mais est-ce avantageux par rapport aux besoins que vous avez? Si c'est pour vous vêtir, une peau de mammouth, c'est tout sauf pratique. Effectivement, en peau de renne, vous allez pouvoir, en renne ou autre, mais en tout cas, l'assouplir beaucoup plus facilement, enfin, travailler ces peaux-là de façon beaucoup plus efficace qu'une peau d'éléphant qui est très épaisse. Et en plus, la peau du mammouth, il faudra la dégraisser parce qu'elle repose sur une quasi dizaines de centimètres de gras pour l'isoler du froid. Bref, on est dans une situation où la préparation de la peau, le jeu n'en vaut peut-être pas la chandelle, on va dire.
Comment le mammouth était-il chassé, Laetitia Demey?
Alors ça, on ne peut pas savoir exactement. Donc on va regarder ce que font certaines sociétés, ou ce qu'elles faisaient en tout cas récemment. Et on va s'appuyer sur leurs techniques. De ce qu'on connaît aujourd'hui, c'est possible. Par exemple, on avait les peuples dits Amazon du Dahomey, donc le Bénin actuel, où il y avait des corps de chasseresses d'éléphants. Donc elles se mettaient au sol et elles attendaient que les animaux passent pour les toucher à des points stratégiques, points sensibles. Dans des zones un peu plus ouvertes, en savane, on va plutôt avoir des groupes de personnes qui tournent en fait autour de l'animal. Sachant que ça, c'est quelque chose, alors c'est plus le cas depuis les fusils, hein, mais les éléphantidés, donc les mammouths, c'était sûrement la même chose, ils font front quand on les attaque, ils ne fuient pas. Donc en fait, en tournant autour d'eux, c'est possible. Ce qui pose un petit peu plus question, c'est ces hardes de femelles avec les jeunes, sachant que elles sont très solidaires les unes envers les autres. Donc si on attaque une femelle, le reste du groupe va défendre. Donc là, est-ce qu'il y avait possibilité d'isoler en fait un individu, par exemple, comme font les bacas en Afrique actuellement, ou récemment en tout cas. Donc on a des hypothèses, on ne peut pas savoir exactement comment ça se passait, mais on peut supposer que c'est quand même plusieurs personnes qui pouvaient intervenir dans ces milieux ouverts, contrairement aux milieux forestiers.
En tout cas, ce que vous décrivez par rapport aux interactions des mammouths et par rapport à leurs réactions, ça ressemble vraiment aux sociétés et au modèle social des éléphants contemporains. C'était des animaux sociaux comme nos éléphants actuels ?
Oui, alors on se base justement sur l'actualisme en fait, donc c'est-à-dire qu'on va regarder les espèces qui sont proches, soit identiques, par exemple le renne, on va aller voir les rennes, ou pour les mammouths, on va aller voir les éléphants. Et c'est ce qu'on retrouve dans nos assemblages. Des fois, on va avoir des assemblages où il y a beaucoup de femelles avec les jeunes, on va avoir des mâles adultes solitaires, et on a des comportements qui peuvent être assez similaires. Je sais pas, en exemple, il y a le fait de revenir sur les ossements des individus morts. Les éléphants, ils font ça. On a les mêmes traces, des fois, au niveau des mammouths. Donc, probablement qu'ils revenaient aussi sur leur mort. Ce qu'on appelle les cimetières d'éléphants, on retrouve des cimetières de mammouths aussi. Donc, voilà, il y a des comportements similaires, en tout cas.
Régis Debrine, là, on parle de cimetières de mammouths chassés pour l'alimentation, l'ivoire, leur défense. Est-ce que les populations humaines ont été responsables de leur extinction?
Ça, c'est un débat qui anime nos discussions aux uns et aux autres depuis de longues dates, effectivement. Alors, on peut sans doute envisager que l'effet des peuplements humains n'était pas nécessairement indispensable à l'extinction des mammouths. Ça, en tout cas, ce que ça veut dire, c'est qu'on peut très facilement envisager l'extinction des mammouths pour des raisons uniquement d'inadaptation à un changement rapide de leur environnement. Ça, c'est l'hypothèse des biologistes en général, de considérer que l'extinction des mammouths, mais pas seulement, en fait, le mammouth, c'est un des représentants de ce qu'on appelle cette mégafaune glaciaire. Et parmi ces représentants de cette mégafaune, il y a eu des tas d'espèces qui se sont éteintes, elles aussi, à cette époque du dernier réchauffement, humidification du monde. Donc, les facteurs environnementaux peuvent être suffisants. Si les déséquilibres sont extrêmement rapides, ce sont des animaux qui ne sont pas extrêmement adaptables et, comme le disait Laetitia tout à l'heure, qui sont au contraire déjà ultra adaptés. Donc si on les perturbe dans leur équilibre, ils sont peut-être moins adaptables que leurs cousins éléphants. Après, est-ce que cette hypothèse est suffisante? Peut-être pas. Peut-être que dans certaines régions, en tout cas, l'homme a participé de façon active à l'extinction des mammouths. Et c'est peut-être plus sensible encore en Amérique du Nord que sur le continent eurasien. Il y a peut-être plus de raisons de suspecter l'impact de l'homme en Amérique du Nord qu'en Eurasie, au vu des populations de mammouths de colons. Le mammouth de colons, c'est un mammouth donc contemporain du mammouth laineux, mais qui vivait, lui, plutôt dans les régions de prairies. Et ces régions de prairies, elles ont été beaucoup moins touchées que les grandes steppes froides dans lesquelles habitaient nos mammouths. Et pourtant, ces mammouths de colons, eux aussi, ont disparu.
Laetitia Demey, sur ce mystère de la disparition des mammouths de colons.
Actuellement, oui, c'est ça l'hypothèse la plus admise. C'est le réchauffement climatique à la fin du Pléistocène, donc jusqu'à cette période actuelle, l'Holocène. Et effectivement, on le voit parce qu'on a tout le cortège faunique qui va être impacté. On a y avait le rhinocéros laineux qui a disparu aussi, tous les grands carnivores, la hyène des cavernes, le lion des cavernes. Donc voilà, on voit que ça va clairement toucher les animaux. Pour le mammouth, on le voit en plus, les dernières populations, il y a de plus en plus de problèmes sur les ossements. Donc il y a des problèmes de consanguinité, il y a des carences alimentaires. Donc là, on le voit fortement. Après, effectivement, est-ce qu'il y a des zones où il y a eu des petites populations qui subsistaient et est-ce que les humains ont pu avoir un impact plus important? Ça, effectivement, on peut pas l'affirmer. Après, en Amérique du Nord, c'est vrai qu'on a des sites de chasse aux mammouths de colons qui semblent un peu plus intenses, en fait.
Les humains vont-ils le ressusciter? Comment étudie-t-on ces espèces disparues? Restez avec nous.
Thank you. n'est pas de loi si l'on veut t'aimer.
Le mammouth de Trust en direct sur France Culture, car nous parlons de ces pachydermes de la préhistoire en compagnie de nos deux invités du jour, Régis De Bruyne, paléogénéticien au Muséum National d'Histoire Naturelle, et Laetitia Demey, archéozoologue dans l'unité Histoire Naturelle de l'Homme Préhistorique du MNHN. On a évoqué en tout début d'émission la découverte des restes d'un petit mammouth femelle, Yana, des restes de 50 000 ans qui sont parfaitement conservé, c'est le spécimen le mieux conservé. Régis De Bruyne, on a depuis les années 70 des mammouthos momifiés comme Dima qui suscitent beaucoup d'excitation dans le monde de la recherche.
Oui, et vous faites bien de le dire, ce sont quasiment toujours des mammouthos. Mammouthos, c'est-à-dire des jeunes mammouths. Alors pourquoi est-ce qu'on retrouve des carcasses momifiées de jeunes mammouths et pas vraiment ou très rarement des restes d'adultes? Ça tient à deux choses, principalement je dirais. La première, c'est que ce sont des animaux plus sensibles que les adultes au risque de l'embourbement à la fin de l'hiver, au moment du dégel. On suppose que ces animaux-là sont morts de ne pas avoir réussi à s'extirper. Et on a d'ailleurs parfois la preuve, c'est le cas pour d'autres momies de mammouth. On a pu voir d'ailleurs que le contenu de leur trachée, c'est de la boue. Donc on sait que ces animaux-là sont morts étouffés de ne pas pouvoir s'extirper de la boue. Donc voilà, si vous êtes un jeune mammouth, c'est plus difficile de vous extirper d'un lit de rivière si vous glissez dedans. Et puis, en plus de ça, vous êtes aussi beaucoup plus petit. Et là, c'est d'un point de vue taphonomique, c'est-à-dire d'un point de vue de la préservation du spécimen, vous avez beaucoup plus de chances de très rapidement vous faire recouvrir par un volume d'eau qui va prendre en glace et qui va, d'une certaine façon, permettre cette momification, alors que les adultes, eux, ont beaucoup moins de chances de ne pas dépasser de la surface. Voilà.
Or, les Dimas, c'était le premier spécimen conservé de façon intégrale avec toute sa
aussi
peau.
Aussi spectaculaire, c'est vrai.
On a pu même étudier les tissus mous de Dimas, c'est-à-dire même regarder ses globules rouges. Et puis, Autre spécimen très impressionnant, Jarkov, qui lui est vieux de 40 ans, qui a été découvert en Sibérie en 97. Et ça aussi, ça a marqué un nouvel essor.
Oui, tout à fait. En fait, il faut s'imaginer que dans ces découvertes, y compris celles de Dimas dans les années 70, elles étaient un petit peu éclipsées pour la recherche occidentale par le simple fait qu'on était encore coincé dans un modèle où ce qui était trouvé en ex-Union soviétique, restait en Union soviétique, et il n'y avait pas vraiment de collaboration scientifique facile à établir à ce moment-là, en tout cas pour la majorité des chercheurs occidentaux. Donc, évidemment, ça n'était pas confidentiel, mais c'était beaucoup moins facile. Or, la Sibérie commence à s'ouvrir à la fin des années 1990, et par le biais de missions, notamment impulsées par des explorateurs français, je pense à Bernard Butte, qui est donc le découvreur de Jarkov, il va y avoir cet attrait pour le mammouth va être relancé, notamment par la découverte de cette carcasse de Jarkov, qui n'est donc pas un mammouth rigoureusement complet, mais qui est quand même un mammouth adulte dont une partie du corps a été momifiée. C'est ce mammouth qui, vous l'avez peut-être vu à l'époque, pour les plus vieux d'entre nous en tout cas, élitreuillé par donc cet hélicoptère militaire russe. C'est une image, c'est vraiment une image de la fin des années 90. Et donc effectivement, à ce moment-là, le mammouth revient sur le devant de la scène. Et depuis, on a découvert de nombreuses momies, et ça c'est lié outre le fait qu'on s'y intéresse plus, mais aussi à un dégel accéléré du pergélisol dont on pourra reparler.
Donc en effet, on peut s'attendre à découvrir de plus en plus de momies de mammouth, mais pourquoi le pergélisol conserve-t-il aussi bien les peaux, les restes? Parce que ça agit comme un gigantesque congélateur?
Oui, c'est ça, c'est un congélateur. Alors quasiment un congélateur domestique d'une certaine façon. C'est-à-dire que la température du pergélisol, c'est moins 15, moins 17 degrés. Et il se trouve que, alors, il y a différents types de pergélisol, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais on va dire pour le pergélisol classique, il a comme caractéristique de ne pas dégeler. Donc c'est ça qui va essentiellement permettre la préservation de momies avec des tissus mous, parce que sans cette congélation, évidemment, il y a réactivation sinon de tous les phénomènes de putréfaction classique des carcasses qui font que dans notre jardin, on ne pourra pas tomber sur une momie de mammouth. Alors qu'en Sibérie, effectivement, la carcasse, si elle est reprise dans ce sol gelé, peut être momifiée par le froid, ça va la dessécher, ça va la préserver des micro-organismes qui sinon seraient venus s'en nourrir.
Alors loin des steppes glacées de Sibérie, le sous-sol du Val-de-Marne est lui aussi un lieu de découverte de vestiges de mammouths. C'est ce que l'on voit pour le reportage du jour et c'est avec vous Bruno Sansini, bonjour.
Bonjour Natacha.
Alors vous vous êtes rendu au centre de documentation de la Courneuve de l'INRAP dans lequel sont conservés les ossements de deux spécimens découverts en Île-de-France.
Effectivement, des mammouths en région parisienne, cela peut paraître surprenant. Pourtant, les découvertes d'ossements de mammouths ne sont pas si rares et nous indiquent la présence d'épisodes de glaciation en Europe. En 2012, à Changy-sur-Marne, un amas d'ossements de mammouths a été découvert lors d'une fouille préventive. Grégory Bale, archéozoologue à l'INRAP, m'a présenté ces découvertes. L'étude de ces ossements nous en apprend plus sur le retour de ces grands mammifères emblématiques sur notre territoire lorsque les températures ont commencé à chuter. En plus de l'enquête sur la vie de ces mammouths, des silex et des traces de découpe sur les ossements ont été découverts, nous indiquant une interaction avec des néandertaliens. Les conditions de mort de ces individus est difficile à déterminer avec les éléments en présence. Mais une mort liée à une crue ou une prise au piège dans la vase reste le plus probable.
Il y a eu effectivement sur le site de Changis une fouille préventive, donc sur la loi préventive d'un établissement gallo-romain. Et puis c'est à cette occasion-là qu'on a découvert en dessous les premiers restes des mammouths. Et donc il a été décidé par le service régional d'archéologie de faire une fouille de sauvetage urgent. Voilà. Alors c'est pas les mêmes réglementations, mais voilà, c'est à peu près pareil, c'est qu'il faut respecter des délais pour que la carrière puisse exploiter aussi ces alluvions. Et donc voilà, ça a été en un mois et demi à peu près d'une fouille de sauvetage.
C'est ça, parce qu'en plus des ossements, il y a aussi tout l'environnement qui est important de fouiller en même temps pour avoir des informations sur le contexte de vie et de mort de ces mammouths.
Oui, et l'occasion a été d'autant plus intéressante, c'est que pour la vallée de la Marne, on n'avait pas grand-chose. Et donc là, on avait l'occasion justement de bien renseigner avec des analyses et des études modernes.
Ça nous informe aussi sur le milieu. Ces mammouths, ils ont été tous retrouvés de la même période? Ou est-ce que c'est des mammouths qui ont été présents sur le territoire français à des périodes très différentes?
Alors les mammouths, en fait, ils ont une longue histoire en France, puisque les premiers, on va dire, sont pas très loin du million d'années. Quoi. Et puis après, il y a plusieurs mammouths qui se succèdent. Et en fait, chaque mammouth, alors on en a trois principaux, hein, qui sont le mammouth méridional, le mammouth des steppes, et puis le dernier, c'est le mammouth laineux. Et chacun a plus ou moins des environnements propres, on va dire. Par exemple, le mammouth méridional, il a plus une tendance à évoluer dans un paysage, on va dire, un peu tempéré, chaud. Alors que le mammouth laineux, lui, par exemple, c'est plutôt un animal adapté pour des périodes froides, des horizons très plats, voilà, des grandes plaines d'herbacées. Donc voilà, on a vraiment des changements de paysage avec ces différents mammouths, quoi. Et c'est vrai que en France, eh ben on retrouve ces trois mammouths.
Et dans le cas du mammouth de Changis, on est sur un mammouth laineux, c'est ça?
Oui. Alors à Changis, c'est effectivement des mammouths laineux. Ce qui est intéressant à Changis, c'est que on est, alors les datations au fond, qui vont situer à peu près vers moins 90 000, moins 100 000. Et cette date-là correspond au début de la dernière glaciation. Donc moins 90 000, moins 100 000, c'est le début de la dernière grande glaciation qui est connue, l'Eurasie. Et ces mammouths-là, eh ben, c'est comme s'ils avaient recolonisé la partie occidentale de l'Eurasie.
On va essayer de se frayer un chemin, oui, au travers de ces allées pour aller voir les ossements.
Oui. On va passer entre les caisses de différents sites, hein, voilà. Alors ce sont des grandes travées, hein, avec de chaque côté des caisses de différents sites. Donc là, par exemple, dans cette travée, c'est Notre-Dame. On a tous les éléments un peu de colonnes, de choses comme ça, de blocs que mes collègues sont en train d'étudier, d'inventorier. Et puis juste derrière, bah, c'est là, c'est tout ça. Tout ça, ce sont les zones mammouths qu'on a sorties. Donc on les a prélevés comme on pouvait là. Donc sur le terrain, ça a été aussi un vrai challenge, hein, de pouvoir démonter, parce qu'il faut s'imaginer en fait que c'était un amas d'os de mammouth. Donc certains étaient en connexion. Voilà, donc on a une épaule, on a une série de vertèbres avec les côtes qui sont encore en connexion. Donc l'objectif, c'était de pouvoir les extraire un par un et en respectant leur intégrité, donc essayer de les retirer entièrement sans faire trop de dégâts. Ça n'a pas été tout le temps bien, parce que c'est vraiment un mikado.
Là, on est devant une palette, voilà, sur laquelle on trouve des ossements, des fragments d'ossements. Mmh. Et alors, ce qui me frappe, c'est la taille. Oui. Alors, on est devant quel os?
Alors, c'est un fémur. c'est un fémur de mammouth. Alors la taille, on est là un peu plus de... on doit être à 1m20, il me semble, de mémoire. Voilà, ça correspond à un fémur d'un mammouth qui fait pas très loin de 3 mètres de hauteur au garrot. Voilà. Comme je disais, c'est vrai que le problème de ces ossements, c'est qu'il y a des points de fragilité. Donc c'est pour ça que vous le trouvez là en 3-4 parties. La partie distale, la partie mésiale de la diaphyse, et puis tout en haut, c'est la tête fémorale. On les a délibérément laissés comme ça pour pouvoir mieux les manipuler. Voilà. Quand on avait fouillé au départ, on pensait qu'on allait tomber sur un squelette. On a retrouvé justement des os d'un deuxième mammouth, voilà, et qui était en contact direct. Donc vraiment, ces deux individus sont morts au même moment et leurs restes sont venus s'accumuler dans cet amas. Et deux mammouths, alors on en a un qui est le plus complet. C'est le mammouth qu'on avait appelé à l'époque Helmut. Bien sûr, on n'a pas tous les ossements. Et on l'a pu l'identifier à un âge. On a pu lui attribuer un âge qui serait à peu près une cinquantaine d'années. Alors, si on les cale par rapport à l'espérance de vie des éléphants, qui vivent à peu près une soixantaine d'années. Quant au deuxième individu, alors lui, il est représenté par 4-5 os, mais lui serait plus jeune. Ça sera un jeune adulte, hein, probablement 20-30 ans à peu près. Et lui, on a pu l'identifier comme un mâle. On a constaté au moment du recollage, etc., que certains ossements présentaient des pathologies. Par exemple, pour l'individu le plus âgé, on a retrouvé des pathologies au niveau de la matière osseuse. Il y avait probablement des déformations d'os, des trous dans les os qui sont vraiment liés à des pathologies. Quoi.
Voilà. On arrive à remonter à des pathologies via la forme de l'os.
Oui, tout à fait. On peut constater qu'il peut y avoir, par exemple, des tumeurs osseuses qui apparaissent. Donc, celle-ci, elle en présente. Des problèmes aussi au niveau des dents, hein, qui présentent une usure anormale aussi. Donc tout ça, ça n'a pas aidé, si vous voulez, dans sa vie, en fait. Et c'est pour ça que ça se retransmet aussi, et c'était là la cohérence, ça se retransmet aussi sur les analyses isotopiques qui ont montré qu'elle avait eu un stress alimentaire.
Alors, dernière étape pour l'analyse des ossements et des ossements de mammouth en général, c'est la découverte ou les traces d'ADN qu'on peut trouver parfois dans des spécimens qui sortent du permafrost. Est-ce que des présences d'ADN auraient pu vous aider ou vous apporter d'autres informations que vous n'avez pas eues avec ces ossements?
Certainement, oui. Ouais. Bah, notamment sur ces histoires de migration, de parcours de mammouth, etc., de savoir d'où pouvaient venir ces mammouths. Ici, malheureusement, à Changis, voilà, on n'a pas conservé. On n'a pas l'avantage, malheureusement, comme en Sibérie, d'avoir des terrains gelés en permanence. Ça se dégrade très vite. La sédimentation, l'eau, etc., ne permettent pas de pouvoir conserver davantage la matière organique. Et donc, ça se dégrade très, très vite dans nos régions.
Merci Bruno Sansini pour ce reportage. Laetitia Demey, une réaction à l'écoute justement de cette visite
sur les fouilles qui ont été menées justement dans le Val-de-Marne, en Île-de-France.
Oui, bah du coup en fait toute l'équipe là on y a participé en fait tous ensemble et ça a vraiment été une belle découverte parce qu'on connaît en France quelques carcasses entières de mammouths, mais associées à des vestiges archéologiques, donc des artefacts laissés par les humains, ça c'est plus rare. Donc ça c'est vrai que c'était intéressant, et surtout dans cette région-là, pour mieux renseigner ce qui se passait dans la Marne, et surtout au Paléolithique moyen que Néandertal.
Régis Dauvrine.
Alors moi je suis intervenu vraiment en bout de chaîne, entre guillemets, comme le paléogénéticien que je suis, c'est-à-dire que j'ai essayé de récupérer de l'ADN de ce mammouth, d'une côte en particulier, et ça n'a pas marché. Alors on est toujours déçu dans ce cas-là, mais en fait il faut envisager que le contraire aurait été surprenant, c'est-à-dire sur un mammouth aussi ancien, hein, comme le disait Grégory, on est quasiment entre 80 000 et 100 000 ans sans doute. Récupérer de l'ADN sous nos latitudes dans un reste osseux qui sera resté enseveli, on ne sait pas faire. Tout bêtement, il faut au moins dans ce cas-là qu'on soit dans un environnement favorable type grotte froide et sèche, ce qui n'est pas du tout le cas de cette découverte. Donc on n'est pas non plus dans le cas merveilleux de ces mammouths du pergélisol avec une préservation facilitée par l'environnement. Là, au contraire, l'ADN, on va dire, a été lessivé par le temps.
Mais alors justement, le pergélisol qui empêche les dégradations sur les tissus et sur l'ADN, quelles sont les informations génétiques que l'on retrouve? Parce que quoi qu'il arrive, même avec le pergélisol, le génome récupéré est en miettes.
Oui, c'est exactement ça. Et c'est ce qui est parfois un peu trompeur, c'est-à-dire qu'on a souvent une fausse représentation de ce que peut faire ou pas faire le paléogénéticien ou biologiste moléculaire à partir de ces carcasses de mammouth dans le pergélisol. Effectivement, ces animaux sont incroyablement bien momifiés, c'est-à-dire c'est troublant, on va pouvoir regarder leurs cellules, on va pouvoir regarder les tissus avec un niveau de résolution extrêmement important. Et pourtant, dès qu'on rentre à l'intérieur de ces cellules, dès qu'on regarde dans le noyau, puisque c'est là qu'on va récupérer les chromosomes et l'ADN de ces animaux, eh bien tout est en miettes. Et donc ça, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le projet d'il y a 25 ans de certains chercheurs d'envisager un clonage de mammouth, bah ça déjà, de toute façon, ça ne pouvait pas marcher et ça ne marchera jamais. Donc je pense qu'aujourd'hui, il n'y a plus grand monde pour défendre cette piste-là. Par contre, on sait faire des choses aujourd'hui qu'on ne savait pas faire il y a 25 ans. En particulier, il y a eu des développements en biologie moléculaire de certains de ces outils dont vous avez déjà souvent parlé dans l'émission, qu'on appelle les ciseaux moléculaires, la technologie CRISPR-Cas9. Voilà. Donc ces approches-là, elles permettent d'envisager de faire ce qu'on appelle de la réécriture génomique. Ça a ouvert en tout cas des portes à un certain nombre de scientifiques qui se disent d'accord, on ne peut pas cloner de mammouth, mais on peut récupérer de l'ADN de mammouth et on peut récupérer dans certaines de ces carcasses très très bien préservées, effectivement, l'intégralité du message génétique. Alors il faut qu'on le recompose avec nos ordinateurs, hein, c'est comme ça que ça marche, c'est un gigantesque puzzle et c'est nos ordinateurs qui font notre boulot à ce moment-là pour nous, parce que sinon on n'arriverait pas à recoller les pièces, elles sont trop nombreuses. Mais une fois qu'on a recollé les pièces, on a d'une certaine façon le blueprint, l'image du génome du mammouth. Et donc si on ne peut pas l'avoir biologiquement parlant, on peut peut-être essayer de tricher. Mais c'est ça en fait, hein, la piste des chercheurs qui envisagent de faire déséteindre les mammouths, c'est d'utiliser l'information qu'on connaît du génome du mammouth et d'utiliser une source biologique fonctionnelle, qui ne sera pas une cellule de mammouth, qui sera une cellule d'éléphant, et de transformer cette cellule d'éléphant pour lui faire mimer le comportement d'une cellule de mammouth, d'une certaine façon.
Avant de parler et d'approfondir ces projets justement sur la désextinction, par rapport justement au génome complet reconstitué depuis 2008, donc le premier génome complet de mammouth oui. Est séquencé, c'est d'ailleurs le premier génome d'une espèce disparue à être séquencé, mais en fait quand on dit ça, c'est pas tout à fait vrai, il y a certaines zones qui demeurent incomplètes.
Oui, et puis alors, en 2008 en particulier, c'était vraiment un peu de l'esbrouf, entre guillemets. Mais vraiment, on est au tout début de ces nouvelles technologies de séquençage qui apparaissent au milieu des années 2000 et on est à une période où les paléogénéticiens veulent tous sortir le premier génome ancien, quel qu'il soit, humain, mammouth, peu importe, on va dire. Il se trouve donc en 2008 que ce papier sort et nous dit, voilà, on a, alors c'est même pas séquencé le génome du mammouth, c'est on est en train de le faire, entre guillemets, si on lit le titre de l'article, c'est ça que ça veut dire. Et effectivement, à ce moment-là, on a à peu près la moitié de l'information du génome du mammouth qui est connue. Il faut attendre 2013 pour avoir la majeure partie de l'information. Et en fait, on n'atteint jamais la totalité de l'information. Pourquoi ? Parce que, alors, pour des raisons très simples, hein, il y a des tas de régions du génome qui comportent ce qu'on appelle des zones à faible complexité, avec des motifs répétés, bref, des zones qu'on a beaucoup de mal à replacer quand on récupère des tout petits morceaux de génome. Et c'est ce qu'on récupère quand on travaille sur de l'information génétique d'un mammouth. C'est-à-dire qu'il faut s'imaginer que le génome, c'est un grand livre. Dans ce grand livre, il y a des chapitres qui seront nos chromosomes. Mais dans ces chapitres, on a, nous, des bouts de phrases ou plutôt même des morceaux de mots. C'est ce que récupère le paléogénéticien parce qu'on récupère des morceaux qui vont faire quelques dizaines de lettres d'ADN, hein, c'est A, C, G, C, 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 T. Et un génome de mammouth, ça en fait 3 milliards et demi. Et le problème, c'est qu'on a donc des morceaux de mots parfois qui peuvent atterrir à plusieurs endroits différents du génome. Donc ceux-là, on ne sait jamais. Quand on récupère un petit bout, on ne sait jamais s'il va ici ou s'il va là. Donc on reste toujours à peu près 95% maximum du génome qu'on pourra recomposer.
Mais parmi en tout cas les chapitres de ce grand livre, Régis De Bruyne, on a quand même des informations génétiques qui nous ont permis de comprendre certains aspects des mammouths, notamment la séquence qui code l'hémoglobine du mammouth.
Oui, effectivement, il y a l'intérêt d'avoir accès à ces informations-là, c'est effectivement d'avoir accès à des informations qui n'ont pas forcément laissé de traces pour les archéologues et les paléontologues. Et par exemple, une des premières découvertes issues de cette analyse du génome, ça a été de se rendre compte que l'hémoglobine du mammouth, elle est particulière au sein des éléphants et elle est même particulière au sein plus largement des mammifères. Elle porte des mutations dans un morceau de protéine qui est relativement bien conservé à l'échelle des mammifères, c'est-à-dire c'est une protéine qui est suffisamment importante pour muté relativement peu, hein, et bien chez le mammouth, on voit quelque chose de totalement nouveau et différent. Et ça, on sait l'expliquer pourquoi. Parce que cette mutation, elle s'avère avantageuse dans des conditions bien particulières, puisqu'elle permet de relarguer plus facilement l'oxygène, puisque c'est ça le rôle de l'hémoglobine, de véhiculer l'oxygène dans le sang et pour la distribuer aux différents tissus. Donc cette version de l'hémoglobine du mammouth, elle peut relarguer plus facilement l'oxygène aux tissus quand les tissus sont exposés à de très basses températures. Oh, surprise, n'est-ce pas? Parce que votre mammouth, effectivement, il n'a pas la chance d'avoir des moon boots. Il se promène pieds nus dans la toundra et il faut donc qu'il supporte cette température. Il n'a pas non plus de sabots. Hein. Il marche sur une sole plantaire et sur les mains directement en contact. Et c'est ça, 24 heures sur 24. Il ne dort pas couché non plus. Bref, donc, comment fait-il pour être capable de faire fonctionner ses muscles, y compris dans ses pattes, dont on pense que la température des muscles de cette patte devait difficilement dépasser les 20 degrés? Eh bien, il avait besoin d'une hémoglobine adaptée à ces températures.
Des moon boots de mammouth, vous me faites rêver. Bon, on arrive à la fin de cette discussion. On vient beaucoup de parler des mammouths du passé. Parlons un peu des mammouths du futur. On a en effet George Church dans son projet de désextinction avec sa start-up colossale qui finance ce projet-là, qui annonce de façon un peu farfelue, qu'en 2028, une des extinctions est prévue. Bon, en réalité, il n'y a pas d'avancée tangible. On peut dire que ça, Régis Debrune, que pour le moment, tout ça, c'est un fantasme.
C'est un fantasme essentiellement pour ramasser de l'argent. C'est un peu ça qui est dérangeant dans l'histoire. Que ce soit un fantasme en soi, ce n'est pas très grave. Qu'on rêve tous ou certains de faire revivre un mammouth, ce n'est pas gênant. Ce qui est plus gênant, c'est que là, c'est un fantasme qui est animé pour récupérer des dizaines et des centaines de millions. Et ça marche. Pourquoi ça peut pas pourquoi parce que la piste elle-même de la désextinction du mammouth est liée à ce jour au fiasco. Il y a des tas de raisons à ça. Il suffit pas d'avoir un génome de mammouth pour faire revivre un mammouth. Ça serait beaucoup plus simple. On n'a pas de mère porteuse d'éléphante pour faire se développer ce proto-mammouth si jamais on était capable de faire cette espèce de cellule hybride porteuse d'un génome d'éléphant transformé en génome de mammouth. Et puis on sait pas non plus faire ce que prétend vouloir faire Colossal, à savoir, dans ce cas-là, faire un développement extra-utérin complet. Un mammouth, c'est 22 mois de développement, a priori, comme un éléphant. Bah, là, eux, ils envisagent à ce jour, puisqu'ils savent bien qu'ils n'auront pas de mère porteuse, de faire ça ex-utéro. Sauf qu'on ne sait pas le faire. On ne sait pas le faire pour des animaux qui ont une durée de développement beaucoup plus courte que les mammouths. Donc, bref. Et puis, surtout, ce qui est un peu dérangeant dans l'histoire, c'est qu'aujourd'hui, pour justifier de le faire, ils prétendent que l'arrivée de ces mammouths, si vous voulez, sera avantageuse. Parce qu'en gros, on est dans un monde aujourd'hui où si vous voulez faire revivre un mammouth, il faut au moins que ça vous aide à faire quelque chose de défendable d'un point de vue sociétal. Et heureusement, la société aujourd'hui, elle est peut-être moins crédule par rapport à ça qu'il y a 15 ans ou 20 ans. Mais il n'empêche, ces gens-là essaient de nous faire croire que si on fait revivre des mammouths et qu'on les met dans la toundra sibérienne, eh bien, à force de piétiner cette toundra, ils vont réactiver le fonctionnement steppique en asséchant la toundra et faire se développer de nouveau les hautes herbes nécessaires au développement d'un écosystème comparable à celui qui voyait vivre les mammouths il y a encore 15 000 ans.
C'est que les mammouths auraient des atouts climatiques, mais bon, pour ça, il faudrait des milliers de mammouths pour que c'est un effet, cette façon de piéger du carbone dans les sols aussi.
C'est prendre en plus les causes et les effets à l'envers, c'est-à-dire que c'est pas parce que si les mammouths étaient capables par eux-mêmes de suffisamment entretenir leur environnement au point de maintenir la steppe, ils n'auraient jamais disparu, parce que la steppe n'aurait jamais disparu, vu qu'ils y étaient déjà. Donc si la steppe a disparu et laissé place à cette toundra, c'est bien que la simple présence des mammouths n'est pas un facteur suffisant pour permettre le développement de la steppe.
Les hautes limites génétiques, c'est aussi les problèmes posés par l'épigénétique, Régis Debrun, pour conclure.
Oui, tout bêtement, parce qu'effectivement, quand bien même on aurait un génome de mammouth, si on le met dans un environnement extracellulaire ou même dans le ventre d'une éléphante, on n'aura pas un mammouth au bout. On aura quelque chose qu'on ne maîtrise pas, parce qu'on ne connaît rien à l'épigénomique des mammouths aujourd'hui.
Voilà, dans quelques secondes, on retrouve la chronique d'Alexandre Morales, mais pour tout comprendre sur ces projets de désextinction, on a consacré une émission entière à ce sujet, le réveil du dodo. On vient de vous poster le lien. On n'aura pas parlé de papoute, mais merci Régis Debrune, merci Laetitia Demey. Tout de suite, on reste dans la préhistoire avec le régime alimentaire des kangourous préhistoriques. C'est la chronique avec science.
Comment estimer le régime alimentaire des kangourous préhistoriques? Je ne sais pas vous, mais moi, je crois que je ne serais pas vraiment rassuré en me retrouvant en Australie, terre de tous les dangers, face au kangourou géant. C'est un animal de près de 2 mètres dont l'incroyable musculature le rend largement capable de tenir tête au dingo, un chien sauvage et son seul prédateur. Ça, c'est pour la période actuelle. Imaginez maintenant des animaux similaires pouvant atteindre les 3 mètres de haut, comme le Procoptodon, le plus grand kangourou de tous les temps, ou alors le wombat géant qui faisait la taille d'un hippopotame. Les proportions sont impressionnantes évidemment, mais ces animaux sont d'un autre temps. Du Pléistocène plus précisément, une période géologique qui va d'il y a 2,58 millions d'années à 11 700 ans avant notre ère. Sur la fin, il y a environ 40 000 ans, l'Australie a connu une extinction massive et 90% des grandes espèces de vertébrés ont disparu, dont la moitié de kangourous. C'est ensuite l'avènement d'une petite ère glaciaire. Sandrine Ladevez est chercheuse au CNRS, spécialiste de la paléontologie des mammifères.
Donc à cette époque, il y avait des kangourous à face longue, comme ceux qu'on connaît actuellement, et également des kangourous à face courte. Ces kangourous à face courte, ils étaient assez particuliers. On pensait que justement leur face courte et très puissante leur permettait d'écraser des plantes avec beaucoup, beaucoup de force. Et on pensait qu'ils étaient plutôt spécialisés dans la consommation de feuilles d'arbustes, donc des choses assez dures. Et on pensait qu'ils étaient extrêmement spécialisés dans leur mode alimentaire. Et c'est d'ailleurs l'hypothèse qui était conservée jusqu'à actuellement, que les kangourous qui ont disparu au Pléistocène étaient tellement spécialisés, avaient une alimentation tellement spécialisée qu'ils n'ont pas pu s'adapter aux changements climatiques et environnementaux qui sont survenus à cette période.
Savoir quel était le régime alimentaire de ces kangourous préhistoriques est essentiel pour pouvoir déterminer les causes de leur disparition. Alors, broutait-il de l'herbe à la manière de vaches bipèdes ou alors faisait-il un festin des feuilles, fruits, rameaux et autres bourgeons qui poussaient sur les arbustes ? Pour répondre à cette question, les scientifiques australiens ont analysé les dents fossilisées de 12 espèces disparues de kangourous récupérées dans la grotte de Victoria, un endroit connu pour sa richesse en fossiles. Ils les ont ensuite comparées aux dents de 17 espèces actuelles, non pas que de kangourous qui sont des brouteurs d'herbe, mais plus largement de marsupiaux, la famille à laquelle appartiennent les kangourous, pour avoir tous les régimes alimentaires. Leurs résultats ont été publiés dans la revue Science. Alors, jusqu'à présent, on déterminait le régime alimentaire des espèces éteintes en observant leur morphologie, leurs dents et les os de leur crâne en particulier. Mais ici, les chercheurs ont couplé cette approche à une nouvelle méthode. Ils ont utilisé une technique de microscopie en trois dimensions pour analyser les micro-rayures à la surface des dents. En fait, lorsqu'un animal mastique, l'aliment qu'il est en train de mâcher laisse des traces distinctives sur ses dents selon ses propriétés physiques. Les graminées comme l'herbe laissent des rayures fines tandis que les feuilles font des traces plus profondes. Ces observations ont révélé des résultats qui contredisent ce que l'on pensait jusqu'à présent.
Dans ces fossiles de narines courtes, il y a beaucoup de kangourous qui avaient un régime alimentaire mixte. C'était une stratégie assez commune au Pléistocène. Et d'ailleurs, actuellement, c'est aussi une stratégie assez courante chez les kangourous, en particulier dans des régions où la végétation est plus abondante. Et cette alimentation mixte, elle permet une flexibilité alimentaire qui permet aux animaux d'adapter leur alimentation à des conditions changeantes. Donc ça va plutôt à l'encontre de ce qu'on pensait auparavant, que les sténurines, les faces courtes, avaient une alimentation très 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 spécialisée qui leur a pas permis de s'adapter à des changements climatiques et environnementaux. Toutefois, à narines courtes, tous les kangourous n'avaient pas un régime alimentaire mixte. Il y avait des kangourous aussi bien à face courte et à face longue qui avaient des régimes alimentaires assez spécialisés, mais ces régimes alimentaires spécialisés, ils étaient à des extrémités différentes du spectre d'alimentation, ce qui laisse suggérer que c'était très peu probable que ces animaux aient disparu à la suite d'un même changement climatique puisqu'ils avaient des alimentations différentes.
L'hypothèse selon laquelle c'est le changement climatique qui aurait causé la perte de la mégafaune australienne et en particulier des kangourous géants ne tient donc plus. Pour les paléontologues, une seule explication subsiste, l'espèce humaine. On estime que ces grands marsupiaux ont commencé à décliner il y a environ 40 000 ans. Or, c'est la date à laquelle l'espèce humaine aurait atteint l'Australie. Attention cependant, des analyses plus poussées sont encore nécessaires pour valider cette hypothèse.
Merci Alexandre pour votre chronique et merci à vous pour votre écoute.